autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur la foule, le comportement des foules. À l'heure où les rassemblements sont interdits et la distanciation sociale de rigueur, il est d'autant plus pertinent de comprendre comment éviter les cohues, embouteillages et autres mouvements de foule, d'où l'intérêt de les étudier à toutes les échelles et dans tous les domaines. Ces foules, qui ne sont pas toutes aveugles, destructrices et déchaînées, mais où se déploient aussi de surprenantes intelligence collective, à l'image d'une nuée d'oiseaux, d'une fourmilière ou même d'une dune de sable, autant de systèmes complexes dont les propriétés se ressemblent. Mais quel lien peut-il y avoir entre l'écoulement de fluide et un embouteillage, un grain de riz, un banc de poisson et un piéton ? Pourquoi et comment l'étude des foules, la fouloscopie, pour reprendre le titre de l'ouvrage passionnant de notre invité, le chercheur en sciences cognitives Mehdi Moussaïd, pourquoi c'est une discipline en plein essor qui réunit désormais physiciens, éthologues, mathématiciens, psychologues et économistes autour de la question « Les foules sont-elles forcément stupides ?» Bienvenue.
Ce qui est remarquable dans tous ces systèmes, c'est qu'en fait, de par les interactions qui sont très nombreuses entre chaque individu, que ce soit des particules ou des êtres vivants, émergent des systèmes, des propriétés qui sont remarquables parce que c'est quelque chose de nouveau, qu'on ne retrouve pas à l'échelle individuelle. Mais surtout, la structure qui apparaît au niveau collectif a des propriétés remarquables qui font d'elle un être à part entière.
Voilà qui est dit par le physicien José Allois, spécialiste des systèmes complexes, qui mène désormais ses recherches au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Décidément, la science des foules, la science des systèmes complexes, qu'il s'agisse de grains de sable, de fourmilières ou de supporters dans un stade de foot. La fouloscopie, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Mehdi Moussaïd, mène à tout. Bonjour Mehdi Moussaïd.
Ouais, bonjour Caroline.
Merci d'être en direct par téléphone avec nous depuis Berlin, où vous êtes, Mehdi, chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck, auteur donc d'un ouvrage passionnant, Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, paru aux éditions Human Science et génialement illustré par Wozniak. Qu'est-ce qui vous a, Mehdi Moussaïd, orienté? Alors vous êtes éthologue au départ, c'est-à-dire spécialisé dans l'étude du comportement des animaux. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir foulologue? Enfin, je ne sais pas comment il faut dire, mais dit spécialiste en sciences cognitives des foules, en comportement des foules.
Oui, alors en fait, il faut remonter encore plus loin. En fait, je ne suis pas éthologue de formation. À l'origine, je suis ingénieur en informatique et donc je suis une route pour devenir ingénieur informaticien, un trajet assez commun, hein, somme toute. Et puis, je me dis à un moment, ce n'est pas vraiment une vocation, hein. Je me dis à un moment que j'aimerais faire quelque chose de plus proche de mes rêves. J'aimerais faire de la science, j'aimerais être chercheur. Et donc, je trouve une thèse de doctorat et puis je m'engage dans cette thèse en éthologie, ce qui étudie le comportement des animaux. Mais en fait, c'était un comportement assez particulier puisqu'il s'agissait du comportement collectif des animaux. Donc, par exemple, des bancs de poissons ou des troupeaux de moutons ou des nuées d'étourneaux, vous savez, qu'on voit parfois dans le ciel.
Oui.
Et assez rapidement, on se rend compte quand on étudie ce genre de système que c'est pas propre vraiment aux animaux. C'est quelque chose qui peut s'élargir à d'autres systèmes entre guillemets. Et qu'en fait, une foule de gens, eh bien, ça fait partie de la même grande famille de systèmes et on peut les étudier de la même façon. Et donc progressivement, j'ai commencé à étudier le déplacement des piétons dans les rues et puis pendant les grands rassemblements et puis ensuite en ouvrant encore plus, on peut commencer à considérer une société tout entière. Voire même des internautes sur les réseaux sociaux, par exemple. Je suis sûr qu'on va en parler. Tout ça.
C'est ça, justement, précisément, dans votre ouvrage, on s'en rend compte, puisque vous parlez à la fois de piétons, de fourmis, de graineries, de particules, mais aussi, effectivement, de la toile, de nos réseaux, et puis des holas hein, dans les stades. Vous commencez, en tout cas, par briser une sorte d'idée reçue. Hein. Les foules ne sont pas toutes forcément stupides. Enfin, pas toujours.
Ouais, c'est ça, pas tout le temps, en fait. Hein. Les foules ont une mauvaise image dans la culture populaire. Elles sont souvent synonymes de bêtises collectives, en fait. Et puis, on dit souvent, isolez-vous, vous serez plus malin que si vous êtes au milieu d'une foule. Eh bien, c'est vrai, mais seulement en partie, en fait. Il y a aussi la face cachée de la foule. C'est une forme d'intelligence collective qu'on étudie beaucoup au laboratoire et qui est très, très en vogue, scientifiquement parlant, depuis le début des années 2000. Donc, il y a eu ce changement un peu d'état d'esprit au début des années 2000, où on s'est rendu compte qu'en fait, les foules, ce n'est pas seulement une masse stupide. On peut aussi en tirer quelque chose de constructif et d'intelligent. Et en fait, pour résumer ces deux faces, on peut dire que la foule a une tendance à amplifier les choses. Elle peut aussi bien amplifier des choses négatives, comme des émotions négatives, par exemple, ou de la colère, ou ce genre de choses, que des choses positives. Et donc, c'est à nous, chercheurs, de comprendre dans quelles conditions ça va basculer d'un côté ou de l'autre, et éventuellement pouvoir en faire quelque chose de très fort. J'ai tendance à comparer les foules à une unique créature gigantesque qui aurait plein de petits cerveaux. Et du coup, cette créature, elle est très puissante. Mais cette puissance, il faut pouvoir, d'une certaine façon, essayer de l'orienter vers des choses positives plutôt que vers des choses négatives.
C'est ça, la canaliser, hein, canaliser le fait que, que les foules amplifient tout. Alors, vous passez du coup votre temps de chercheur à les étudier. D'abord, vous l'avez fait chronomètre en main, in situ, à vos risques et périls. Hein, vous le racontez d'ailleurs très drôlement dans cet ouvrage et également sur votre chaîne YouTube, Fouloscopie. Le lien est sur notre site et je vous conseille vivement, chers amis auditeurs et internautes, d'y jeter un œil et une oreille en avant-goût, justement. Je propose d'écouter tout de suite un extrait de votre vidéo intitulée « Pourquoi la foule chante toujours juste ?» tournée à Berlin dans un parc bucolique où le week-end, les Berlinois font du karaoké. Allez, on vous suit.
Il y a un truc vraiment marrant, c'est quand le public se met à chanter, ça sonne toujours vachement bien. Dès qu'il y en a un qui prend le micro, on se dit « Ah non, lui, en fait, pas terrible. » C'est comme si plein de chanteurs pas terribles ensemble, ça donnait un bon chanteur, collectivement. C'est bizarre, non ?
Effectivement, Mehdi Moussaïd, c'est bizarre. Comment ça se fait que des chanteurs très, très médiocres, tout seuls, arrivent collectivement à faire une jolie chorale, à chanter juste ? Pourquoi une foule chante juste ?
Ça, c'est des sons qui me donnent toujours la chair de poule, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont que la même chose. Quand on entend une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui chantent à l'unisson, c'est toujours, ça donne toujours un peu la chair de poule. Mais effectivement, c'est un tout petit cas d'école de cette grande discipline de l'intelligence collective qui concerne cette fois-ci le chant. Et là, en l'occurrence, il y a deux mécanismes qui sont en jeu. Il y a le fait, d'une part, que c'est ce qu'on appelle l'influence sociale. Donc, il y a d'une part le fait que ceux qui chantent moins bien et sont conscients de le faire vont avoir tendance à s'ajuster sur leurs voisins parce qu'ils sont moins sûrs d'eux. Ceux qui chantent mieux vont moins avoir tendance à s'ajuster, et si bien que ce sont surtout ceux qui chantent faux qui vont se corriger et ceux qui chantent juste qui vont rester droits. Mais d'accord. Il y a un second mécanisme qui est encore plus important. C'est que c'est simplement une forme d'illusion acoustique, en fait. C'est-à-dire que si vous écoutez plein de petites fréquences de son qui sont très différentes, légèrement différentes les unes des autres en même temps, eh bien votre oreille va former un tout qui va sonner juste dans votre cerveau.
Ah, on fait nous-mêmes l'unisson, finalement, dans notre oreille. Hein.
D'une certaine façon, oui.
Alors, vous vivez actuellement à Berlin. Hein. Vous venez vos recherches sur la foule et sur le comportement des foules. À l'Institut Max Planck, vous n'avez pas subi le confinement comme nous en France, même si il n'a pas été aussi strict, disons, à Berlin, en Allemagne, qu'en France. Mais du coup, comment vous faites pour travailler ? Parce que vous ne pouvez plus tellement aller étudier in situ les foules dans les rues, il n'y en a plus.
Effectivement, mais alors en fait, les recherches qu'on mène, il y a plusieurs méthodes pour approcher une foule, il y a plusieurs outils à notre disposition. Donc la première, celle qui nous vient tout de suite en tête, c'est qu'on peut aller effectivement dans la rue pour collecter des données, et ça, on ne peut plus le faire en ce moment parce qu'il n'y a pas de foule. Par contre, il y a d'autres méthodes qu'on a sur le bureau. Par exemple, on peut utiliser de la modélisation, donc on peut faire des mathématiques.
Oui.
On peut essayer de décrire un système avec des équations mathématiques, et puis ensuite utiliser l'ordinateur pour essayer de comprendre comment ce système se structure, par exemple. On se sert, en fait, la plupart du temps, je me sers plus de mon ordinateur que de mes yeux ou que d'une caméra vidéo.
Ouais, c'est de la modélisation.
Et puis surtout, on fait beaucoup de modélisation. Mais surtout, les foules, ce n'est pas uniquement des piétons qui marchent dans la rue. Il y a d'autres foules, et c'est celles-ci, au contraire, qui vont être très actives, même pendant ces temps de confinement. Par exemple, les foules d'internautes qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui vont interagir beaucoup, qui vont former des jugements collectifs, qui vont faire circuler des informations, des vraies informations, des fausses informations.
Ah, vous travaillez là-dessus aussi, parce que finalement, une rumeur ou un buzz sur Internet notamment, ça circule de la même manière, c'est le même principe.
Oui, exactement. Une information va circuler sur Internet, De la même façon que la, pour reprendre l'analogie avec les animaux, de la même façon qu'un banc de poissons va faire circuler une information sur la présence d'un prédateur en évitant ce prédateur de manière successive. Vous savez, chacun copie son voisin. Et puis au bout d'un moment, celui qui a vu le prédateur en premier va propager l'information du danger à l'ensemble du banc. Et c'est tout le monde qui va pouvoir fuir. Donc là, c'est la même idée principale de propagation d'informations qu'on appelle des cascades d'informations.
Et justement, par rapport à ces propagations, à ces cascades d'informations, est-ce que c'est vraiment, on propage juste à son voisin ? C'est vraiment, il suffit d'étudier dans ce cas-là, je ne sais pas moi, deux piétons ou deux internautes ou trois, et on peut élargir ? Ou comment ça se passe, ça ?
Ouais, en général, c'est ça, la méthodologie qu'on a, elle est à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'on a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui interagissent dans tous les sens, donc c'est un petit peu complexe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de zoomer sur une personne, une paire de personnes, ou peut-être un trio, et on va voir comment circule l'information à ce niveau-là. Et puis, on va essayer de mesurer des choses, et ensuite, on va dézoomer, puis on va voir comment ça se propage à l'ensemble. Ce qu'on fait généralement aussi, qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va faire des expériences. Par exemple, moi, au laboratoire, j'ai fait une expérience une fois où j'ai créé une chaîne de transmission. Donc, c'est comme, vous savez, le jeu du téléphone.
Oui.
Où vous donnez une information à une première personne qui va la répéter à une seconde, qui va la répéter à une troisième, etc.
Et elle sera bien déformée à la fin, en général.
Oui, ouais, c'est ça. Donc, en général, c'est un jeu qu'on fait dans les cours de récréation. C'est rigolo parce qu'à la fin, le message est complètement déformé. Ici, on le fait très sérieusement au laboratoire et puis on essaie de voir comment se déforme cette information. Est-ce que c'est juste une déformation aléatoire parce que les gens ont mal répété ? Ou est-ce que c'est une déformation un peu biaisée qui va dans un sens systématiquement ou dans un autre ? Et effectivement, c'est la deuxième option. On se rend compte dans nos expériences que cette déformation de l'information, eh bien, elle va toujours dans le sens de ce que les gens qui la transmettent veulent entendre. Donc, si vous prenez une information qui est au milieu d'une controverse, par exemple, eh bien, les gens qui prennent parti dans cette controverse vont déformer cette information dans le sens qui les arrange, alors que les autres vont le déformer dans l'autre sens. Et ça, ce n'est pas nécessairement malveillant, hein. C'est vraiment notre cerveau qui va filtrer les informations de manière inconsciente pour laisser seulement ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est comme ça qu'on a des amplifications, par exemple, sur les réseaux sociaux.
D'accord, là, on comprend très bien hein, ce que la foule dit de nous, pour reprendre le sous-titre de votre ouvrage, ouais. Fouloscopie. Alors, comment on se comporte en foule ? Tout de suite, une nouvelle question pour vous, hein, sur ce sens commun, soulevée par Cécile Lestienne, du mensuel Cerveau et Psycho.
Il semble que quand dans un flux de personnes, les gens se croisent, par exemple dans les couloirs du métro, on retourne toujours les personnes qui viennent de l'autre côté, du même côté, à droite, et que c'est assez culturel. Est-ce que le fait de contourner les gens par la droite ou par la gauche est lié au fait de conduire à droite ou à gauche ?
Votre réponse, Mehdi Moussaïd, parce que ça, vous l'avez étudié.
Ouais, c'est une très bonne question. C'est effectivement même le tout premier projet scientifique que j'ai conduit au tout début de mon doctorat. Effectivement, c'est la première chose que j'avais entre les mains. C'était de comprendre comment s'éviter les piétons dans la rue. Donc, c'est un petit projet pour un débutant. Et pour ça, on a conduit une expérience encore en laboratoire. Donc, on a recruté des paires de participants. On a construit un petit couloir assez étroit et puis on a mis un participant à chaque extrémité du couloir. Et on leur a dit au top départ de traverser le couloir. Et donc, les gens allaient se croiser. Et nous, on se demandait, mais comment ils vont faire pour se coordonner pendant ce croisement pour choisir le bon côté, quoi, pour ne pas se rentrer dedans. Est-ce qu'il y avait une hypothèse qui disait peut-être que les gens échangent des petits signaux, petit regard ou bien un petit mouvement d'épaule pour savoir de quel côté on passe, etc. Et en fait, on s'est rendu compte avec nos analyses que non, pas du tout. Il n'y a aucun échange d'informations. Et les piétons, pour réussir à se croiser efficacement, presque de manière complètement spontanée, parce que en fait ils vont avoir une sorte de règle comportementale qui est quelque part dans leur cerveau qui leur dit bien, quand vous croisez un inconnu, choisissez d'aller à droite. Je vous rappelle que l'expérience a été conduite en France. Choisissez d'aller à droite parce que l'autre personne aussi aura fortement
va choisir d'aller à droite aussi.
Donc on va pouvoir se croiser. Exactement. Et donc ça permet de coordonner les piétons. D'ailleurs, ça a une conséquence au niveau du flux de piétonniers, parce que si vous regardez deux flux de personnes qui marchent en sens opposé dans une rue, par exemple une rue piétonne, eh bien, vous allez voir que tous les gens qui marchent du même côté, donc plutôt dans la même direction, vont occuper une moitié de la rue, la moitié droite, et ceux qui marchent dans l'autre direction vont occuper l'autre moitié. Et donc ça, c'est intéressant, mais... Oui, c'est ça, en France, on roule à droite, donc la question suivante, c'est de se dire, ok, mais pourquoi c'est la droite, pourquoi c'est pas la gauche ? Donc, on va regarder d'autres pays. On se rend compte qu'effectivement, dans d'autres pays, les gens s'évitent par la gauche et le flux piétonnier se structure à gauche dans les différentes rues. Par exemple, au Japon, les gens s'évitent par la gauche. Et donc, on se demande, OK, mais pourquoi certains pays à droite, d'autres à gauche ? Est-ce que c'est lié au code de la route ? Eh bien, la réponse est oui, en partie. C'est toujours, toujours, c'est jamais clairement oui ou non. Mmh,
c'est complexe, hein, ce sont toujours, des systèmes complexes.
Oui, c'est toujours, ça dépend. Alors, c'est oui, en partie, il va y avoir une influence du code de la route, mais ce n'est pas uniquement ça. Par exemple, il y a des pays où on roule à gauche, comme au cœur de Londres, par exemple, sur Oxford Street. On voit que les piétons s'évitent par la droite. Il y a aussi des contre-exemples, en fait, et on pense que c'est principalement dû à un effet d'apprentissage, dans le sens où les piétons vont apprendre petit à petit à s'éviter d'un côté ou d'un autre, juste par essai-erreur, et au bout d'un moment, tout le monde va réussir à se coordonner sur une préférence commune.
Bah, il vaut mieux d'ailleurs, hein, se coordonner sur une préférence, c'est plus simple. Enfin, des fois, on a des quiproquos dans la rue, justement, hein, face à quelqu'un, ouais. Où d'un seul coup, on ne sait plus quoi faire. Mais au fond, une foule, elle va toujours dans le même sens. Il y a aussi, alors là, pour le coup, c'est sur votre site, hein, Fouloscopie, il y a des images étonnantes de Hola, hein, dans les stades notamment, où ça fait des vrais mouvements et ça fait des vraies chorégraphies. Hein. Mehdi Moussaïd.
Oui, est-ce que vous pouvez répéter la fin de la question?
Ça fait des vraies chorégraphies. C'est Hola, c'est... Ouais. Alors, on ne peut pas le voir à la radio, ouais. Hein, bien sûr, mais c'est très impressionnant. Et on a l'impression, dans ces cas-là, effectivement, d'une forme d'un seul organisme, hein, qui bouge ou qui fait des vagues.
Oui, tout à fait. Et puis même principalement d'une entité presque physique pour une hola, pour le coup. Mm-hmm. C'est intéressant parce que historiquement, la hola a commencé à être étudiée au début des années 2000 et c'était une communauté de physiciens qui a commencé à s'intéresser à ce phénomène des physiciens qui se sont dit « Tiens, c'est étonnant cette hola dans les stades parce que ça ressemble quand même beaucoup à une onde qui circule dans un matériau. » Mm-hmm. Et donc, ils ont pris les outils de la physique et ils ont commencé à décrire la hola avec ces outils. Ils se sont rendus compte que ça marchait très, très bien. Et ça, pour un physicien, c'est quelque chose qui est très excitant parce qu'en fait, on va réussir à attaquer des systèmes qui sont des systèmes vivants, des systèmes humains, avec des outils qui ont été conçus pour de la matière inerte et de se rendre compte que ça fonctionne très bien. Et au début des années 2000, à la fin des années 90, il y a eu tout un engouement comme ça des physiciens pour étudier les comportements sociaux et qui a été d'ailleurs couronné de succès parce qu'on peut effectivement étudier les systèmes humains avec des outils de la physique. Ouais.
Autour de la question, les foules sont-elles forcément stupides? On continue de s'interroger sur nos foules humaines, qui ont peut-être un petit plus, je ne sais pas. On s'interroge avec Alain Souchon, foule sentimentale, sur RFI. Sentimental d'Alain Souchon sur RFI vous inspire évidemment. Mehdi Moussaïd, vous êtes chercheur en sciences cognitives, auteur de Fouloscopie et vous étudiez donc le comportement des foules à l'Institut Max Planck de Berlin. Alors qu'est-ce que cette foule sentimentale d'Alain Souchon dit de nous?
Ouais, en fait, c'est une question, c'est une question intéressante, hein, parce qu'en fait, elle n'est pas complètement déconnectée de mes travaux, effectivement. Il y a, par exemple, bon, la chanson parle effectivement du comportement des consommateurs et du fait d'être sous l'emprise de ce désir de consommer, d'avoir des quantités de choses, entre guillemets, comme il dit. Et effectivement, il y a toute, une communauté de chercheurs, principalement des économistes, par exemple, qui vont s'intéresser à la fouloscopie, donc au comportement des foules. Et en particulier une sous-discipline qui s'appelle le marketing viral, où on va essayer de comprendre comment faire aimer les choses à une personne, ou comment plutôt faire acheter des choses à une personne.
C'est ça, hein, oui.
Juste en manipulant un petit peu ce qu'aime son entourage. Parce que vous savez, on aime bien acheter les mêmes choses que les gens qui nous ressemblent, que les gens qu'on fréquente, que les gens avec qui on interagit. Et donc, il y a très certainement un comportement de foule derrière et des effets d'entraînement. Donc, vous avez des produits, par exemple, qui vont d'un seul coup être achetés par beaucoup de monde, principalement parce qu'il y a eu un buzz autour de ce produit. Et donc ça, il y a toute une science derrière tout ça.
Toute une science de laquelle il faut peut-être un petit peu se méfier, là, pour le coup.
Absolument.
Un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, il habite à Bukavu, en RDC, nous demande pourquoi est-ce que, je le cite, hein, lors des sorties en groupe, il cite par exemple les sorties en groupe d'étudiants, il y a toujours, comment dire, une sorte d'humeur de supériorité collective qui règne, et même l'anxiété ou la timidité disparaît chez certaines personnes. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est vrai, mais ça s'applique plus qu'au groupe, même à la foule entière. Et d'une manière générale, je l'avais brièvement mentionné tout à l'heure, il y a une leçon qui se dégage, c'est que la foule va avoir tendance à amplifier les choses. Et elle peut amplifier aussi bien des émotions positives que négatives. Hein. Donc, par exemple, quand la France gagne la Coupe du Monde et que vous vous sentez heureux, vous allez dans la rue, vous vous retrouvez dans une foule de près d'un million de personnes qui sont tous heureux. Et bien, d'un seul coup, votre bonheur, il va être décuplé, en fait. Il va y avoir cette sorte d'amplification de votre plaisir. Vous allez être prêt à pleurer des larmes de joie, alors que chez vous, vous étiez simplement content. Et donc, il va y avoir cette amplification due au fait d'être très nombreux.
Du au fait de la masse, d'être entouré d'autres êtres humains, ouais. C'est ça, hein ?
D'être entouré d'autres êtres humains qui ont les mêmes émotions que vous. C'est surtout fait de partager une émotion qui est le plus important. Et vous l'avez aussi pour les émotions négatives, comme la colère, par exemple. Hein, si vous aviez des gens qui sont mécontents, par exemple, du système, du pays dans lequel ils vivent, ils peuvent être simplement mécontents chez eux, mais à partir du moment où ils vont se retrouver dans une manifestation entourés d'autres personnes qui partagent le même mécontentement, eh bien, ça peut s'amplifier, ça peut aller jusqu'à une révolution. C'est par exemple ce qu'on a vu au début des années 2010, pendant le printemps arabe, où vous aviez des gens qui étaient principalement chez eux en train d'exprimer personnellement un mécontentement, et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, en particulier de Facebook, les individus se sont rendus compte que cette colère, elle était partagée par les autres, et donc il y a eu cette amplification qui s'est mise en place, qui a conduit au résultat qu'on connaît.
Oui, il n'y a même pas besoin d'être, comment dire, en vrai, en contact, en chair et en os, dans une foule. On peut être dans une foule d'internautes, hein, c'est ça, hein ?
Oui, absolument, absolument. C'est l'élément clé, c'est l'interaction sociale. Elle se fait historiquement par la présence physique, mais aujourd'hui, elle se fait aussi sur le web. Ça marche aussi bien.
Alors, pas besoin non plus d'être en foule, d'être en masse pour être stupide. Il suffit simplement de suivre aveuglément son voisin. Je ne résiste pas à vous passer un petit sketch, un sketch de Jamel Debbouze. Jamel dit, pourquoi tu cours ?
À chaque fois que je voyais un mec courir, je courais, je sais pas pourquoi. Cours, cours ! Oh, marde, marde ! Cours, je te dis, cours, cours ! Oh merde, je veux de la merde! Cours, je te dis, mais cours! Mais qu'est-ce qui se passe? Cours, je te dis! Mais pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours! Et moi, je cours parce que tu cours! On n'a qu'à arrêter de courir alors! Moi, j'ai pas confiance!
Mehdi Moussaïd. Qu'en pensez-vous de ce sketch de Jamel Debbouze qui n'arrête pas de courir sur scène?
Oui, le sketch est très drôle. Si vous me demandez si c'est drôle ou pas, c'est effectivement très drôle. Mais non, plus sérieusement, c'est aussi tout à fait proche des recherches. Hein, effectivement, imaginez que vous êtes dans la rue, vous vaquez à vos occupations et soudain, autour de vous, vous avez 3-4 personnes qui se mettent à courir en criant. Eh bien, typiquement, votre comportement va être de courir en criant également. Et ce faisant, vous allez croiser d'autres personnes qui vont vous voir et qui vont se mettre elles-mêmes à courir en criant. Et puis, petit à petit, il va y avoir de plus en plus de monde qui va courir en criant, comme si de fuir ou d'être en panique, ça avait quelque chose de contagieux. Et effectivement, on parle de contagion sociale. Et c'est un phénomène qui existe tout à fait, et c'est le fait que la peur, par exemple, il y a d'autres choses qui sont contagieuses, mais la peur, par exemple, c'est quelque chose qui est contagieux et puis qui peut conduire une foule entière à fuir dans une certaine direction, seulement après une ou deux personnes qui se sont mis à fuir au début, la grande majorité des gens ne sachant pas pourquoi elles courent. C'est par exemple, il y a des cas particuliers, par exemple...
De mouvements de foule, comme ça, oui.
De mouvements de panique, plus précisément.
De mouvements de panique, d'accord.
Ouais, de mouvements de panique, c'est par exemple après deux jours après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, vous savez la foule de Parisiens qui se recueillent sur la place de la République. Puis c'est passé quelque chose, on sait pas exactement quoi. Il y a quelques personnes qui ont pris peur, qui se sont mis à courir. Les voisins les ont imités, ils ont été imités par leurs propres voisins. Et au bout d'un moment, c'est tout un quartier de Paris qui était en train de fuir. C'était effectivement une fausse alerte, il y avait rien de particulier.
Mais
ça, c'est typique d'un mouvement, d'un comportement collectif.
Ouais, d'un comportement collectif, vous dites mouvement de panique, mouvement de foule, vous en avez étudié. Hein, vous avez étudié le mouvement de foule à la Mecque en 2010, qui avait fait des centaines de morts. Il y a un de nos auditeurs, un fidèle auditeur, c'est le physicien Stéphane Kenmoé, qui est aussi un formidable diffuseur de science à la télé Cameroun. Donc Stéphane Kenmoé vit actuellement en Allemagne, à Duisbourg, et il vous demande comment expliquer ce qui s'est passé, je cite Stéphane, en juillet 2010, lors de la Love Parade à Duisbourg, en Allemagne. Love Parade au cours de laquelle un mouvement de foule a conduit à la mort de plusieurs personnes. Donc lui, il vit à Duisbourg et il aimerait bien avoir l'explication d'un expert. Alors votre explication sur ce mouvement de foule, de panique, Mehdi Moussaïd?
Ouais, je me fais juste une petite parenthèse. Donc, on parle d'un mouvement de foule dans ce cas-là parce que c'est une bousculade en quelque sorte. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, les gens se bousculent et ça conduit à des victimes, comme par exemple lors de la Love Parade. On va parler d'un mouvement de panique plus dans le cas de la place de la République à Paris. D'accord. Quand les gens ont vraiment peur et sont en train de fuir. Mm-hmm. Et en fait, il y a des recherches qui montrent que pendant un mouvement de foule, même lorsqu'il y a des centaines de victimes, les gens en fait ne sont pas en panique vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont quand même lucides, ils comprennent qu'il y a un danger, ils essaient de s'en sortir. Mais il n'y a pas de panique vraiment au sens clinique du terme. Et c'est souvent une idée reçue de se dire que les gens sont en panique et font n'importe quoi, deviennent irrationnels.
Votre constat de chercheur.
Oui, exactement. Ouais, la plupart du temps, on a affaire à des gens qui sont très lucides. Il n'y a pas vraiment de panique. La panique, c'est quelque chose d'assez rare. Alors, pour revenir sur Duisbourg, effectivement, c'était en 2010. C'est un mouvement de foule, du coup, qui a fait 21 victimes. Et c'est pendant un rassemblement, pendant un festival de musique électronique. Et on a un mécanisme assez commun finalement pour ce genre d'accident, c'est à savoir c'est un problème de planification en fait. C'est-à-dire que il y a pas vraiment de magie, enfin plutôt de magie en termes de psychologie des individus ou quoi. C'est surtout de la logistique en réalité. C'est-à-dire que le problème techniquement, c'est qu'il y a trop de monde par rapport à l'espace disponible. Mmh. Donc vous avez des flux d'individus, ce sont principalement des jeunes fêtards qui arrivent pour assister à ce festival. Il y a plusieurs flux qui arrivent de différents côtés. Et puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde. Il y a plus de monde que prévu. Donc, la police essaie de rediriger certains flux. Mais vous savez, c'est comme dans une énorme canalisation avec un liquide qui arrive.
Ouais.
Et s'il y a trop d'eau, ça va déborder. Et donc, il faut absolument rediriger les différents tuyaux pour maintenir le niveau d'eau assez bas. Mais le problème, c'est que quand vous redirigez le tuyau d'un côté, nécessairement, ça va ressortir quelque part d'autre. Vous savez, la foule continue d'arriver.
Ouais, ouais.
Et c'est ce qui s'est passé. Donc après quelques tentatives de la police de rediriger les flux, à un moment donné, il y a eu une erreur. Il y a deux flux qui ont été redirigés en même temps, au même endroit. Ce qui fait que la densité, donc le nombre de personnes par mètre carré, a soudain augmenté. Il y a eu un pic de densité à un endroit très particulier. Les gens étaient beaucoup trop serrés. Il y a des pics de densité qui sont allés jusqu'à 9 personnes par mètre carré. Et quand vous arrivez à ce niveau de densité, eh bien, tout simplement, vous êtes tellement serré que vous n'arrivez même plus à respirer. Et c'est ainsi que 21 personnes ont péri pendant la parade.
Vous donnez d'ailleurs sur votre site Fouloscopie 10 conseils pour s'en sortir d'une foule. Et notamment, moi, je n'avais pas pensé à ça, de mettre les mains devant soi ou devant sa poitrine pour pouvoir respirer. Parce que finalement, un des plus gros dangers, c'est quand même ça.
Exactement, ouais. C'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. C'est pas trop dans la culture populaire. Mais effectivement, Le principal problème pendant un mouvement de foule, c'est qu'on est trop serré. Et en fait, on est tellement serré que c'est l'oxygène qui va venir manquer. Là, les victimes sont toutes succombées d'asphyxie, en réalité. Mm-hmm. Et donc, principalement, il faut réussir à continuer à respirer parce qu'on est vraiment très serré les uns contre les autres. Et une des façons de faire, c'est, comme je dis souvent, enfin parfois, c'est de replier ses bras devant votre poitrine comme un boxeur, par exemple. Parce que ça va vous permettre, si vous êtes trop serré, de pousser un tout petit peu et de dégager quelques centimètres autour de votre cage thoracique pour pouvoir continuer à respirer.
Alors vous conseillez aussi de vous éloigner, d'essayer de sortir de cette foule-là. Et vous dites aussi qu'une foule solidaire, elle survit plus qu'une foule d'individualistes. Ouais. Je trouve ça joli aussi.
Ouais, absolument, c'est tout à fait le cas. Si tout le monde prend un petit peu de temps pour essayer de s'entraider, eh bien, dans l'ensemble, chacun va augmenter ses chances de survie parce que ça va marcher beaucoup mieux que si vous piétinez les autres pour passer dessus. De toute façon, la plupart du temps, les gens se comportent de manière tout à fait solidaire pendant un désastre. On le voit dans les tragédies. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, pendant l'évacuation des tours jumelles pendant le 11 septembre du World Trade Center. Et on se rend compte qu'en fait, les gens sont tout à fait lucides. Au contraire, le fait d'être face à un danger imminent, d'être entre guillemets tous dans la même galère, c'est quelque chose qui va réveiller une forme de solidarité. C'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent dans la littérature scientifique.
Autour de la question, les foules sont-elles et ne sont pas justement forcément stupides, dangereuses et déchaînées? La réponse est donc non, et pas toujours. Mehdi Moussaïd, à la lecture de Fouloscopie, vous nous rappelez en passant que la plus grande foule jamais vue à un concert, c'était en 1986, au concert à Moscou, de Jean-Michel Jarre. Oxygène, évidemment, oxygène de circonstance sur RFI.
Autour de la question sur RFI.
L'oxygène de Jean-Michel Jarre sur RFI qui nous fait du bien. Nous sommes en compagnie du chercheur en sciences cognitives Mehdi Moussaïd. Ça fait du bien, de l'oxygène dans une foule. Et puis en plus, c'est effectivement le concert qui a rassemblé le plus de monde et ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé, ouais. 3,5 millions de personnes. Donc c'est légèrement au-dessus de ce qu'on observe régulièrement pendant le pèlerinage de la Mecque, qui est autour de 3 millions de personnes. C'était à Moscou en 97 et le titre de la chanson Oxygène est presque un petit appel au fait que c'est principalement la ressource qui manque quand on est dans une grande foule.
Voilà pourquoi on n'a pas pu résister à vous le passer entre les oreilles, cet oxygène. Ouais. Autour de la question, les foules sont-elles forcément stupides et comment découvrir aussi l'intelligence collective que le collectif précisément peut faire émerger? C'est notamment le cas, ça c'est presque un poncif chez les insectes sociaux, les fourmis, les termites, les abeilles, même si ça n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Je vous propose, Mehdi, d'écouter l'éclairage du professeur Martin Jurfa, spécialiste de l'étude du cerveau des abeilles, qui a montré leur incroyable capacité à s'orienter, à compter, à communiquer avec leur danse des abeilles. Il est directeur et fondateur du Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université de Toulouse. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
Quand j'ai créé cet institut, je voulais justement créer ces deux niveaux d'analyse, des gens qui, comme moi, s'intéressent donc aux capacités cognitives individuelles et d'autres gens qui vont regarder ceci à l'échelle collective. Parce que les uns et les autres invoquent des phénomènes tout à fait différents. Donc, par exemple, dans les phénomènes d'intelligence collective, ce qu'on va dire, c'est qu'on peut, au niveau d'une foule, voir surgir des réponses adaptées et intelligentes. Par exemple, une foule qui choisit d'aller ici et pas là, qui va optimiser, par exemple, un parcours par rapport à un autre, etc. Et ceci se fait sans grande connaissance de ce qui se passe autour. C'est des phénomènes qui surgissent, par exemple, avec des interactions limitées entre les individus de cette foule-là. Mmh. Il suffit que moi, plongé au milieu de cette foule, je prenne en compte, par exemple, ce que font les deux ou trois qui sont autour de moi. Je vais me guider par cette perception limitée de mon environnement. Et peu à peu, quand cette vague va se propager quelque part dans cette foule, que tout le monde fera pareil, qui va réagir en fonction de l'entourage immédiat de deux ou trois personnes autour, on va voir émerger une sorte de hola, comme on voit dans les stades, hein, un patron collectif qui peut être considéré parfois comme intelligent. Mais vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement limité. Quand je parlais de l'abeille qui sait résoudre des problèmes mathématiques ou qui sait comprendre ou résoudre tel ou tel problème, là on est vraiment dans le minimum du minimum, mais qui articulé permet de voir surgir ces niveaux cognitifs. Donc pour moi, si vous voulez, la grande question, qui est une question qui me fascine tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait qu'un individu qui est tout à fait isolé, livré à lui-même, soit capable des tâches les plus remarquables, quand il est plongé dans la foule, devienne, je ne dirais pas stupide, mais plutôt limité. C'est une question, même pour l'être humain, extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que l'individu livré à lui-même déploie toute une batterie des stratégies extrêmement sophistiquées, alors que quand il est plongé dans le collectif, peut-être il sacrifie ses stratégies pour quelque chose de plus simple et limité, qui peut être néanmoins adaptatif, qui peut être néanmoins une solution importante au problème qui va être confronté à ce moment-là. Mais pourquoi on sacrifie l'un en fonction de l'autre ?
Vous parlez des abeilles comme des humains, hein, on a bien compris. Hein.
Mais c'est que les parallèles sont remarquables, encore une fois. Parce que quand on dit que l'abeille, donc en collective, peut faire des processus plutôt simples et en individuel peut faire des processus sophistiqués, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple ? Est-ce qu'on peut imaginer, et encore une fois, c'est des paris insensés, que le fait d'être dans un environnement collectif va activer dans le cerveau des réseaux, par exemple, particuliers, c'est-à-dire que le collectif est un stimulus en soi-même qui active certaines zones cérébrales qui permettent quelque part de diminuer l'apport des réseaux individuels, de cette cognition individuelle. Est-ce qu'au contraire, le fait d'être isolé va booster l'activation des réseaux de la connaissance individuelle ? Et ainsi de suite, c'est des questions qui donc vont au-delà de l'abeille, qui peuvent être posées pour plein d'espèces, vous voyez ?
Que pouvez-vous répondre, Mehdi Moussaïd ? Quelle piste pour vous à cette énorme question soulevée par Martin Jurfa ?
Ouais, c'est évidemment des questions très ouvertes et très intéressantes. Je pense que le mot clé qui a été prononcé par Martin Jurfa, c'est celui d'adaptatif. Mm-hmm. Et donc effectivement, on va essayer de s'adapter à la situation et d'essayer de trouver une solution, un comportement qui soit le plus rapide, le plus simple possible, sans perdre trop de temps non plus. Donc on a un bon rapport entre les efforts qu'on fournit à réfléchir et puis le retour qu'on peut espérer.
Donc finalement, ça veut dire qu'on se fie à l'intelligence de groupe, à l'intelligence collective peut-être ? Ça serait quelque chose comme ça, à votre avis ?
Dans certaines conditions, oui, effectivement. Souvent, quand on voit ces mouvements de panique, par exemple, comme je l'écrivais sur la place de la République, où vous avez plein de gens qui courent et puis en fait, c'est une fausse alarme, bien, quand on le voit de loin, on se dit tous ces gens sont vraiment stupides. Ils courent dans le vide, ça ne sert à rien, quoi. Si moi j'étais dans la foule, disent certains, je n'aurais pas couru, j'aurais plutôt regardé pour voir s'il n'y avait pas un danger, etc. Et en fait, en réalité, si vous y réfléchissez, ce qu'il y a de mieux à faire quand vous voyez des gens courir autour de vous, c'est effectivement de courir, parce que individuellement, c'est la solution la plus rapide qui vous met à l'abri rapidement, sans prendre trop de risques. Et donc, c'est effectivement adaptatif, ça a une forme d'adaptation au niveau de l'individu. Au niveau collectif, par contre, le problème, c'est que si tout le monde fait pareil, eh bien, ça va causer des effets d'entraînement qui peuvent entraîner des bousculades ou ce genre de choses. Et de la même façon, pour un banc de poissons, dans une colonie d'insectes sociaux, eh bien, il va toujours y avoir ce rapport entre ce que fait l'individu, ce que va faire le collectif et comment les deux sont liés. C'est toujours fascinant à étudier. Ouais.
On retrouve ça dans les nuits d'oiseaux, hein, ces incroyables nuits des tourneaux, par exemple, qui font des vols en V, des choses comme ça. C'est ça aussi.
Oui, absolument. Tout ça fait partie du même système. Et étonnamment, il y a aussi dans la même grande famille, on retrouve aussi des systèmes physiques comme les dunes de sable. Je pense qu'on va en parler tout à
l'heure. C'est les dunes de sable. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui font même de la musique. Et effectivement, là, il s'agit de grains, mais c'est des petits grains, donc comme des petits individus, des petites particules qui, ensemble, donnent autre chose. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et qui ont une force encore plus forte.
Effectivement. Et on peut étudier, par exemple, pour le faire bref, on peut étudier comment une foule va sortir d'une pièce pendant une évacuation par une petite porte. Mais on peut étudier ce système, ce phénomène, en regardant, par exemple, des grains de riz qui coulent à travers un entonnoir Et puis, en fait, les deux systèmes sont tellement similaires qu'on peut déduire des choses sur les humains juste en regardant les graineries.
C'est ça. Et ça ne nous enlève rien à nous, humains, qui sommes, nous aussi, des animaux très, très sociaux, tellement sociaux, surtout en ces temps de pandémie, d'épidémie, de distanciation sociale obligatoire. On en souffre tous. Il nous faut inventer d'autres manières de nous toucher, de nous rapprocher, de vivre ensemble. À ce propos, et avant d'écouter vos pistes de recherche, parce que vous travaillez aussi sur ce qui nous arrive, Mehdi Moussaïd, je propose un éclairage vu d'ailleurs, vu du Nigeria. C'est celui de l'anthropologue et sociologue Lamine Sagna, chercheur sénégalais qui enseigne en ce moment à l'université de Yola au Nigeria, où il est actuellement confiné. Je propose de l'écouter.
C'est sûr qu'en Afrique, on n'existe pas si on n'est pas dans le groupe. C'est sûr. Parce qu'exister en Afrique, c'est aussi être avec le groupe. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on peut comprendre les comportements qu'on qualifie d'irrationnels de certains immigrés qui ont peu d'argent mais sont obligés de renvoyer à leurs parents. Parce que la foule, le groupe, est extrêmement important pour montrer son existence. Je veux dire, pour prouver qu'on fait partie d'eux. Et montrer surtout son être, en fait, son être. Le rapport du groupe, le groupe est extrêmement important et cette pandémie, effectivement, est en train de bouleverser tout ça. Mais je ne sais pas si l'Afrique traditionnelle va continuer très longtemps à accepter ces trucs de distanciation sociale. Je ne suis pas sûr parce que c'est comme si c'était un suicide collectif. Hein, le fait qu'il n'y ait pas possibilité d'être avec l'autre, d'être hors du groupe. C'est pour cela d'ailleurs qu'on comprend très mal en Afrique la question de l'épargne. Parce qu'épargner, c'est soustraire de sa dépense. Or, on n'existe que dans le groupe. Donc, si on épargne, on se soustrait du groupe. Et donc, il me semble que dans l'Afrique, l'autre Afrique, parce qu'il y a différentes Afriques, l'Afrique traditionnelle, l'informelle, le village, il me semble que ça sera impossible à long terme de le mettre en œuvre pour la distanciation sociale.
Comment faire, Mehdi Moussaïd? Je voulais vous faire écouter cet éclairage inspirant de Lamine Sagna, parce que comment faire aujourd'hui pour inventer d'autres manières de vivre ensemble, sans faire foule, sans même trop se toucher? Alors, vous menez des recherches sur ce qui nous arrive, mais quelles seraient vos pistes à vous? Parce qu'on a besoin du collectif. Et puis, vous montrez à quel point c'est important.
Ouais. Bien, par exemple, moi, comme je vous le disais, je travaille aussi beaucoup sur les foules d'internautes, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, bon, c'est prévisible, c'est intuitif, mais effectivement, le volume d'interaction sociale qui est observé sur les réseaux communs comme Facebook ou Twitter, par exemple, depuis l'arrivée de la crise du Covid-19, elle a été multipliée par elle a été décuplée, elle a énormément augmenté, et donc de toute évidence, les gens se rabattent sur des interactions sociales qui sont peut-être d'une autre nature, mais qui se font pas physiquement, mais qui vont se faire devant l'ordinateur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit effectivement. Je pense que c'est aussi juste de dire qu'on a besoin quand même de ce contact physique.
Bien sûr.
Ce qui me fait aussi un petit peu craindre pour la suite, parce que quand vous avez des gens qui sont restés confinés pendant 2 mois, parfois plus, en fonction des pays, le fait d'ouvrir les portes de la prison, entre guillemets, eh bien les gens en ont vraiment besoin et attendent ça vraiment avec impatience, vous savez, comme les enfants qui attendent Noël.
La récré, hein.
Les enfants qui attendent la récré ou qui attendent Noël. Et du coup, je me demande si ça ne va pas avoir au contraire une influence... Une sorte de vengeance sociale où tout le monde va cette fois-ci va se retrouver dans les parcs, dans les cafés pour essayer de répondre à ce manque.
Ouais, et de rattraper le temps perdu. Ouais.
Et du coup, de créer une seconde vague, malheureusement.
Vous allez travailler là-dessus? Vous travaillez sur quoi actuellement, Mehdi Moussaïd?
En ce moment, on a deux projets. Donc, ce qui se passe typiquement dans les laboratoires, ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est qu'on est encouragé quand même à réorienter un petit peu temporairement nos recherches sur le coronavirus pour pouvoir essayer d'apporter. Vous savez, nous, notre travail, c'est de produire de la connaissance. Et là, on en a vraiment besoin de la connaissance parce que tout le monde est dans l'incertitude. Et donc, on a un rôle quand même qui est d'apporter de la connaissance rapide pour dire, OK, voilà ce qu'on a découvert, voilà ce qui se passe. Donc, nous, effectivement, on a été encouragés à essayer de développer des projets à ce sujet. Donc, moi, j'ai un projet sur les réseaux sociaux qui vise à voir comment circulent les informations, vraies ou fausses, qui sont en rapport avec le Covid-19. Et j'ai un autre projet qui est principalement des simulations numériques pour essayer de voir quel peut être le bénéfice de la distanciation sociale dans les transports en commun, surtout une fois que les gens sont autorisés à retourner travailler. et comment le virus peut quand même circuler quand il y a juste un tout petit peu trop de monde par mètre carré.
Ah oui, des recherches qui nous intéressent grandement. Vous avez dit que vous menez une autre recherche qui peut nous intéresser aussi, que je trouve étonnante, sur la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux autour de ceux qui soutiennent le chercheur Didier Raoult. Hein, je ne parle pas du président Trump, hein, qui ne marche apparemment qu'à l'hydroxychloroquine, hein, tant mieux ou tant pis pour lui. Mais intéressant ce que vous en tirez. On n'est pas du tout dans le pour ou dans le contre. Hein. On est uniquement pour dire ce que vous avez observé.
Oui, effectivement. Le propre du chercheur, normalement, c'est de ne pas être partisan. Donc, il faut toujours observer avec neutralité et froideur. Donc, effectivement, je cherche en ce moment sur les réseaux sociaux des controverses qui pourraient justement être intéressantes en termes de clivage du jugement collectif. Et il y en a une, effectivement, qui s'est présentée, qui est symbolisée par le professeur Didier Raoult, et en particulier l'utilisation de ce médicament pour traiter le coronavirus. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fracture qui s'est créée assez rapidement sur les réseaux sociaux. Donc moi, je travaille beaucoup sur Twitter, par exemple, parce que les données sont libres d'accès. Et donc, on peut développer des programmes informatiques pour voir comment les informations circulent à ce sujet. Et on peut même demander à l'ordinateur de mesurer si ces informations sont plutôt pro ou plutôt contre. Donc ça nous donne une sorte de cartographie. On peut voir le réseau de Twitter presque dans son intégralité, et puis cartographier les zones où on trouve des gens qui sont plutôt pour et des zones plutôt contre. Et on se rend compte sans surprise qu'il y a des regroupements très importants et qu'en fait, les gens qui sont dans un camp sont aussi connectés les uns avec les autres et ils ne sont pas connectés avec le camp opposé. Et ça, c'est problématique parce qu'en fait, à chaque fois qu'une information arrive, l'information va circuler principalement dans le camp qui a envie de l'entendre et donc ça va renforcer encore ce clivage. Et c'est un mécanisme typique qu'on trouve pendant les controverses.
C'est ça, finalement, chacun renforce ceux qui croient, ce que vous disiez. C'est comme ça aussi que partent les rumeurs et les buzz. Donc attention, ce que la foule dit de nous, pour continuer d'explorer vos géniales pistes de recherche, Mehdi Boussaïd, je ne saurais trop inviter nos auditeurs et auditrices à se plonger dans votre ouvrage passionnant, Fouloscopie, donc ce que la foule dit de nous, très joliment illustré, très drôlement illustré par Vosniak. C'est publié chez Humaine Science. Et puis pour découvrir pourquoi les foules ne sont pas forcément stupides, chers amis internautes, vous pouvez aussi, sans aucune modération, vous connecter individuellement ou collectivement sur la page YouTube de Mehdi Boussaïd, Fouloscopie. Le lien est sur notre page. Merci beaucoup, Mehdi Boussaïd, d'avoir été en direct avec nous par téléphone depuis Berlin. Et puis vous revenez quand vous voulez, en vrai, pour nous faire partager la suite de vos fouloscopies. Merci à vous.
Avec plaisir.
On se quitte sur la foule, la foule d'Edith Piaf, mais revisitée par le regretté Manu Dibango sur RFI. Autour de la question, c'est presque fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster, chers amis auditeurs, auditrices et internautes, sur tous les sites de RFI, mais aussi sur Spotify et sur vos applications favorites. Au plaisir de vous retrouver demain autour d'une étrange créature, le blob ou le génie sans cerveau. C'est Audrey Dussautour, la chercheuse qui étudie cet organisme unicellulaire primitif et incroyablement ingénieux et adaptatif, qui nous fera partager les dernières nouvelles de ces blobs après le confinement. Oui, elle les a emmenés en confinement. Tout un programme à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation dans nos studios à RFI, Caroline Fillette en télé ou plutôt en radio-travail à domicile et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Chers amis auditeurs et auditrices, merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal. Les clubs